qui est la vérité, ta parole qui est toujours vivante, toujours d'actualité, à travers laquelle, Seigneur, tu veux nous parler encore ce matin. Seigneur, dispose nos cœurs, notre intelligence, nos pensées à être renouvelées par ton Saint-Esprit, à entendre ce que tu veux nous faire entendre, Seigneur, et que cela puisse toucher nos cœurs, nos pensées et notre vie tout entière, Seigneur. Je te prie de donner par ton Esprit Saint aussi la liberté à Nathan de pouvoir transmettre ce que tu as mis sur son cœur, ce que tu as inspiré, Seigneur, à travers ce message, que tu ouvres sa bouche et, Seigneur, que ce soit ta parole qui soit transmise. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
Amen. Un grand merci, Timothée. Merci de m'accueillir. C'est une joie pour moi d'être là. Quelques visages que je reconnais, dont certains d'il y a très, très, très longtemps. Donc voilà, effectivement, voilà, merci Timothée de m'avoir présenté. Juste quelques mots de plus, un peu de présentation. Je suis marié, j'ai trois enfants. Rebecca, mon épouse, et puis Émilie, Caleb et Zachary étaient attendus, notamment pour des préparations pour le culte de Noël à Fireplace ce matin. Donc ils ne peuvent pas être avec nous, mais c'est aussi avec toutes leurs salutations et tout leur amour que je viens, et aussi salutations de la part de l'église Fireplace. Effectivement, donc cette église existe depuis 7 ans, mais un petit peu de mon parcours aussi. J'ai grandi en région parisienne, j'habitais complètement de l'autre côté de Paris, j'habitais à Romainville quand j'étais petit. Je suis très, très, très heureux d'être là, et notamment parce que donc j'étais présent il y a de ça quelques semaines au culte d'installation de Timothée. Et lors de ce culte d'installation, j'avais fortement sur mon cœur, tout au long de cette célébration, ce passage d'Ésaïe chapitre 43. Et j'étais tellement heureux quand Iléna Hatton, quand elle a fini sa prédication, elle a fini en citant ce texte exactement que j'avais déjà, je savais déjà que j'allais venir prêcher ici dans quelques semaines au moment du culte d'installation. Et quand elle a fini avec ce texte d'Ésaïe 43, je me suis dit, OK, ça confirme, Seigneur, tu as quelque chose à dire à ton église ce matin. Donc je vous invite à prendre, je pense qu'il s'affichera aussi à l'écran, prendre avec moi Ésaïe, chapitre 43, on va lire des versets 16 à 21. Ésaïe 43, des versets 16 à 21. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints, comme une mèche. Voici ce que dit le Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple et mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Amen. Amen. Et donc, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un prophète. Mais la parole que j'ai pour vous ce matin, je ressens que c'est comme si c'était une parole de type prophétique. Et la prédication que je vais apporter ce matin sera plus prophétique qu'une prédication peut-être exégétique, comme vous en avez, je pense, de plus en plus la joie et l'habitude de le recevoir avec Timothée, qui est un exégète extraordinaire. Et donc peut-être que ce matin, je vais apporter quelque chose qui viendra complémenter, mais j'ai l'impression que c'est comme une parole de Dieu pour le maintenant. Ce texte est écrit dans un contexte précis, il y a des centaines et des milliers d'années, mais d'une façon parfois particulière, Dieu prend des paroles qu'il a parlé de façon ancienne pour les réactualiser, pour les renouveler dans un temps présent. Donc je ne suis pas un prophète. En revanche, j'ai une chose en commun peut-être avec les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient le sens de l'histoire. Ils regardaient, ils observaient ce qui se passait autour d'eux dans leur contexte et ils cherchaient à sonder et à discerner, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire dans ce contexte-là? Et en ce qui concerne la ville de Paris, moi qui ai grandi dans cette ville, moi qui ai connu tellement de choses qui sont passées dans cette ville, moi qui ai vu tellement de choses que Dieu a faites dans cette ville, et moi qui connais et qui entends parler du point du jour depuis que je suis un tout petit enfant, j'ai été dans des églises dirigées par des personnes qui ont été un temps pasteurs ou anciens ou membres d'équipe ou piliers ou peu importe comment ils ont été appelés à différents moments au point du jour. J'ai été, d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Thibauté Minard dans une église à Aubergenville qui était dirigée par André Hubert qui a été ici pendant un temps. J'ai été ancien avec et puis formé par un monsieur qui s'appelle Gordon Neal qui était aussi ici au point du jour il y a de ça un certain temps. Quand j'étais petit, j'habitais plutôt du côté de la ville où on allait le plus souvent à Belleville quand on voulait aller à un grand événement parce que c'était la grande église de mon côté, mais que je savais que de l'autre côté de la ville, il y avait aussi une église qui était comme une sorte de grand phare où Dieu agissait, où Dieu faisait quelque chose. Et donc cette église, je sais que c'est une église qui compte, je sais que c'est une église qui a compté et je sais que Dieu a des projets pour cette église. Je sais ce que le point du jour a été. Et il me semble que je ressens dans l'esprit quelque chose de ce que le point du jour est appelé à devenir et à être, c'est-à-dire, selon ce texte, une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Et donc on va commencer avec la première chose que Dieu dit à son peuple à travers ce texte. Il commence en disant ceci, et c'est très important qu'on l'entende ce matin. Ne pensez plus aux événements passés. Ah, waouh! Et ça, c'est pas toujours facile. Quand notre passé est beau, quand notre passé est grand, quand notre passé est glorieux, bien sûr qu'on a envie d'y penser. Bien sûr qu'on a envie d'y ressonger. Bien sûr que parfois, on a même envie d'y revenir, mais Dieu dit ne songez plus aux événements passés. Quand on entend Dieu va faire une chose nouvelle, on a parfois l'impression, on veut que Dieu fasse une chose nouvelle, un petit peu comme il l'a fait avec Élisée après Élie. Deux personnes différentes, mais la même onction. Deux personnes différentes, mais le même manteau. Hein? On aimerait que Dieu refasse aujourd'hui les choses qu'il a faites hier. Sauf que dans ce texte, quand ce texte hébreu a été traduit en grec, les traducteurs qui l'ont traduit en grec ont utilisé un mot très spécifique pour dire nouveau. Il y a deux manières de dire nouveau en grec. Il y a le mot « néos », qui veut dire nouveau, mais du même type que ce qui était là avant. Comme on pourrait dire, aujourd'hui est un jour nouveau. C'est un autre jour qu'hier, mais ça reste un jour. Comme hier était un jour, aujourd'hui est un jour. Hier, aujourd'hui, c'est un jour nouveau aujourd'hui, mais c'est un néos, même type d'une chose différente. Mais il y a un autre mot qui est le mot kainos. Et ce mot kainos veut dire nouveau d'un type différent. Plus différent encore qu'un papillon ne l'est pour une chenille. C'est plutôt penser à ce que ce bâtiment a été avant et penser à ce qu'il est aujourd'hui. Il était avant un cinéma. Il est aujourd'hui autre chose. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de kainos qui est venu. Ce qui est fait aujourd'hui n'est pas la même chose que ce qui a été fait hier. Et donc, il me semble que cette chose nouvelle que Dieu veut faire ici et que Dieu veut faire parmi vous, que Dieu veut faire dans la communauté chrétienne du point du jour, ressemble plus à la relation de David, le roi David, avec le roi Saül, que de la relation d'Élisée avec Élie. Donc, comprenez-moi bien. Élisée avait la même onction qu'Élie. David était un roi tout comme l'était Saül. Mais c'était un roi d'un type tout à fait différent. Dieu a commencé quelque chose de tout à fait nouveau avec David qu'il ne l'avait fait avec Saül. Pourtant, Dieu a fait des grandes choses à travers... Bon, ça s'est mal fini avec Saül, mais ça a bien commencé. De très, très, très belles choses avec Saül. Mais quand David a commencé à être utilisé par Dieu, Saül voulait que les choses se fassent comme avec lui. Souvenez-vous quand David s'est présenté pour combattre contre Goliath. Quel était le réflexe de Saül ? Oh David, tu vas avoir besoin d'une armure. Et donc prends mon armure et mets-la sur toi. Et David a essayé. Et comment ça s'est fini ? pas bien. Il n'était pas fait pour ça. C'était pas ça la saison dans laquelle le peuple était à ce moment-là. Ils avaient besoin d'une saison nouvelle, de quelque chose de nouveau que Dieu allait faire, d'une façon de combattre nouvelle pour un roi d'un type nouveau. Et donc David dit, je vais enlever cette armure pour prendre d'autres types d'armes pour un autre type de ministère que Dieu veut que nous ayons aujourd'hui. Ne soyons pas de ceux qui pleurent le premier temple parce qu'il nous semble, on a l'impression que le deuxième temple est plus petit ou moins glorieux. Vous savez, quand le premier temple a été construit, tout le monde était émerveillé, la présence de Dieu était là, c'était formidable. Et à travers diverses circonstances, le temple a été détruit et les gens, ensuite, par l'action de Dieu, ont pu le reconstruire, un deuxième temple. Mais certains qui avaient vu le premier temple et qui voient le deuxième temple se disent « mais ce deuxième temple est plus petit que le premier temple ». Et on le pleure et on se dit « oh, si seulement c'était comme au temps du premier temple ». Et Dieu envoie un prophète qui s'appelle Haggé. Et ce prophète leur dit, la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. Il faut juste que vous patientez. Il faut juste que vous patientez. Mais que vous acceptiez que ce que Dieu fait aujourd'hui est différent de ce qu'il a fait hier. Ce second temple était une préfiguration de la venue de Jésus qui était le second temple ultime. Il y a une chose que Dieu fait et il y a son accomplissement. Et bien sûr, Jésus est l'accomplissement parfait et plein et total, et qu'une des choses qui marque cette nouvelle saison soit que le point du jour soit une assemblée christocentrique, centrée sur Jésus, centrée sur sa croix, où tous les cœurs sont centrés sur Jésus, tout le message concerne Jésus, toute la prédication concerne Jésus. Mais comprenez que lorsque les gens ont vu le début du second temple, ils se sont dit « c'est pas aussi bien que le premier ». Mais ils avaient juste besoin de patienter, et c'est ce que les prophètes étaient là pour leur dire, persévérez jusqu'à l'accomplissement. Plutôt que de vous détourner du temple et de dire, c'était pas aussi bien que le premier, ça sert un petit peu à rien. Persévérez dedans jusqu'à l'accomplissement. Alors juste une chose, c'est pas que ce que Dieu avait commencé au point du jour s'est arrêté. Ce que Dieu commence ne s'arrête jamais. Ce que Dieu a fait dans les années 1980, 1990, etc., au point du jour, ne s'est pas arrêté. Mais parfois, Dieu continue ailleurs ce qu'il a commencé en un certain endroit. Donc, pensons à Élie et à Élisée. Élie, quand il exerçait son ministère, se trouvait à Galaad, puis se trouvait à Sarepta, puis se trouvait à Horeb. Et puis Élie a pris son manteau et il l'a mis sur Élisée, même onction, même façon d'exercer le ministère, la même chose que Dieu fait. Dieu fait la même chose, mais il veut le faire autre part. Il prend ce qu'il avait sur Élie, il le met sur Élisée. Il dit, cette même chose que j'ai commencée ici va se continuer, mais elle va se continuer autre part. Ce n'est pas que ce que Dieu a fait ici dans les années 80 et 90, 2000, etc., 2010, j'en sais rien, s'arrête. Mais c'est que peut-être que Dieu dit, cette chose que j'ai faite, elle sera maintenant autre part. Donc Élisée, plutôt que d'être à Galaad, Sarepta et Horeb, s'est rendu à Jéricho, à Samarie et à Damas. Pas le même endroit, même si c'était la même onction. Et quand Élisée reçoit une parole de la part de Dieu qui doit apporter à Galaad l'endroit où se trouvait Élie, c'est pas Élisée qui y va lui-même. Parce qu'il se dit, cet endroit-là, cette onction-là de Dieu, dans cet endroit-là, c'est pas pour moi. Et donc il envoie quelqu'un d'autre pour aller à Ramoth en Galade avec cette fiole d'huile pour oindre la personne qu'il devait oindre. Vous voyez, ce que Dieu commence ne s'arrête jamais. Ce qui a été vécu est bon et reste bon et Dieu le continuera. Mais ce n'est pas la saison de Dieu pour cette église ici et maintenant. Parce que Dieu va faire une chose nouvelle. Donc réjouissez-vous de ce que Dieu ait agi ici par le passé, mais arrêtons de chercher à le vivre ici, parce que ce n'est pas ce que Dieu fait ici et ce que Dieu fait maintenant. Dieu a une saison nouvelle. Et vous savez, dans une saison nouvelle, bah, ça demande des vêtements nouveaux. Hein ? On change de saison, on change de vêtements. On est en train de passer vers l'hiver, hein, on commence à mettre des vêtements différents que ceux qu'on portait dans la saison précédente. Mais certains portent encore les anciens vêtements. Peut-être que certains portent encore des vêtements de pluie, s'attendant à une saison de pluie, alors qu'il faut mettre des vêtements adaptés au vent, parce que Dieu va envoyer une saison de vent. Ce n'est pas que ce n'est pas Dieu, c'est juste une nouvelle saison. Ça reste Dieu. Dieu agit parfois par la pluie, parfois par le vent et par la nuée, parfois par le feu. Mais si nous ne sommes pas prêts à entrer dans la nouvelle saison que Dieu a pour nous, si on garde les vêtements de l'ancienne saison, on ne pourra pas vivre ce que Dieu fait dans cette nouvelle saison. Donc certains portent encore des vêtements de pluie alors que Dieu veut envoyer un jour de vent. Est-ce que vous êtes prêts à changer de vêtements? Est-ce que cette église est prête à changer de vêtements? Je vais le traduire très explicitement. Je parle en faisant référence à des textes anciens, à des histoires anciennes pour essayer de nous faire comprendre un petit peu la façon dont Dieu agit et la façon dont Dieu fait les choses. Mais je vais le dire très explicitement. Timothée Minard n'est pas un taubois. Ça fait mal d'entendre ça. C'est dur de le dire. C'est dur de le dire. Parce que j'ai comme l'impression que je touche à une idole en disant ça. Hein? Mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Dieu fait quelque chose de nouveau. Dieu fait quelque chose de nouveau. Et c'est Dieu. Et c'est Dieu qui est dedans. C'est Dieu qui est dedans. Si peut-être vous êtes nouveau dans l'Église et tous ceux de quoi je parle, vous n'avez aucune idée de quoi je parle, de qu'est-ce que je raconte. Peut-être que certains qui sont nouveaux dans l'Église sont soulagés de m'entendre dire tout ce que je suis en train de dire. Mais pour d'autres, sont en train de dire, je ne vois pas c'est quoi la pertinence pour moi. Peut-être que, alors que je parle de nouvelle saison et j'en parle pour l'Église, peut-être que vous pouvez le recevoir aussi pour vous. Peut-être que vous entrez personnellement dans une nouvelle saison. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire dans ses grands projets pour la ville de Paris à travers son Église dans la ville de Paris. Mais peut-être que pour toi, tu rentres dans une saison nouvelle et tu as besoin aussi d'enlever les vêtements de l'ancienne saison. Tu as besoin de te réjouir de ce que Dieu a fait dans l'ancienne saison, mais d'arrêter de vivre dans l'ancienne saison pour entrer dans la chose nouvelle que Dieu veut faire pour toi. Donc, mon premier point est celui-ci et il est tout simple. Ne pensez plus aux événements passés. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Je sais que pour beaucoup, ce ne sera pas simple. Ne pensez plus aux événements passés. Et je sens vraiment que c'est la parole de Dieu pour cette église ce matin et dans l'aujourd'hui de l'église. Donc première chose, ne pensez plus aux choses anciennes. Mais deuxième chose, je fais une chose nouvelle. La raison pour laquelle nous faisons le deuil du passé est que sans ça, on n'entre pas dans la chose nouvelle que Dieu a pour nous. Or, Dieu a une saison nouvelle. Kainos, d'un type tout à fait différent. Ça ne ressemblera pas au passé, mais c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est une autre opération, mais c'est le même Esprit, le même Saint-Esprit. Ne cherchez pas le manteau d'Élie avec la nouvelle équipe et le nouveau jour que Dieu va mettre en place. Ne cherchez pas le manteau d'Élie chez Timothée et sa famille et la nouvelle équipe et ceux que Dieu va emmener et ceux que Dieu va lever et ceux qui vont être de ceux qui vont se battre comme un David avec ses hommes puissants que Dieu va susciter. Parce qu'un David ne se bat pas de la même manière qu'un Saül, mais un David se bat, même si on n'a pas toujours les yeux pour le reconnaître. Mais réjouissez-vous parce que Dieu fait une saison nouvelle. Dieu fait une saison nouvelle. Et donc, à quoi ressemble cette saison nouvelle? J'ai un encouragement pour toi, Timothée, quelque chose que je ressentais de Dieu pour toi. Creuse et articule la vision que Dieu te met à cœur. Ce n'est pas peut-être pleinement formé encore en toi. Tu es encore en train de le découvrir. Mais prends le temps, donne-toi le temps, donnez-lui le temps de le creuser. Jusqu'à ce que tu te dises, c'est bon, je le tiens. C'est bon, je le tiens. C'est comme des intuitions, il y a des petites choses que j'ai à cœur, j'arrive pas. À un moment donné, tu vas réussir à l'articuler. Moi, j'ai implanté une église, j'ai commencé de zéro. Il y avait des choses que j'avais à cœur, mais à un moment donné, il y a un an et demi, je me suis dit, je préparais une prédication juste sur les groupes de maison à l'église, juste sur ça. Mais alors que je préparais ça, j'étais là genre... Ce que Dieu me dit alors que je prépare cette prédication, 5 ans et demi après que l'église, on l'a implantée, hein. Je n'avais pas encore pleinement toute la façon d'articuler la vision, juste des choses que j'avais à cœur. À un moment donné, waouh, je l'ai eu. Je vais vous apprendre une petite devinette. Elle est un peu bête, hein, mais c'est mes enfants qui me l'ont appris. Je suis un petit peu déformé d'avoir des petits-enfants. Pète et Répète sont dans un bateau. Pète tombe à l'eau. Qui reste dans le bateau? Pète et Répète sont dans un bateau. Pète tombe à l'eau. Qui reste dans le bateau? Pète et Répète sont dans un bateau. Pète tombe à l'eau. Qui reste dans le bateau? Répète, Répète. Et donc, creuse, articule, et puis Répète, 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 Répète la vision. Ne t'en lasse pas. Et ne nous lassons pas de l'entendre, alors qu'elle est articulée, alors qu'elle est creusée. Il y a une vision qui est là, et qui va se développer, et qui va se déployer dans l'Église, et n'hésite pas à la répéter, encore, et encore, et encore, et encore. Donc, vision. Et donc, il y a une vision qui vient et que Dieu va donner et que Dieu va articuler. Et pas seulement la vision de l'Église, mais aussi une culture d'Église, une façon d'être dans l'Église, une façon de se conduire dans l'Église. Paul dit à Tite, enseigne la manière dont il convient de se conduire dans la maison de Dieu. Et dans chaque saison et dans chaque âge et dans chaque génération, il y a peut-être des choses à changer dans la façon de se conduire dans la maison de Dieu. Or, c'est aux responsables de l'Église d'être de ceux qui disent et qui indiquent comment on se conduit dans la maison de Dieu. Le vocabulaire qu'on emploie, la façon de parler, la façon d'être. Une façon qui permette d'être Église ensemble. D'être soi-même, bien sûr, mais de l'être d'une manière qui permet à tout le monde de trouver sa place et à tout le monde d'être inclus et de tout le monde de devenir membre de la famille. Donc, c'est le rôle de Timothée de creuser, d'articuler et puis de répéter, 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 répéter la vision. Et pour la culture de l'Église aussi, de creuser et d'articuler et de répéter, 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 répéter la façon dont il convient de se conduire dans la maison de Dieu. La culture de l'Église. Et à toute l'Église, soyez attentifs et réceptifs. Peut-être que de temps à autre, il y aura juste une petite main sur l'épaule qui dit « Quand tu fais ça, pense à le faire un petit peu plus de cette manière-ci. » Ou « Quand tu fais cela, pense à le faire un peu plus de cette manière-là. » Et ça peut pas toujours, c'est pas toujours facile d'entendre ce genre de choses-là de la part d'un responsable, mais soyez-y attentif et soyez-y réceptif, parce que c'est une manière pour cette Église de se constituer pour le prochain combat que Dieu met devant, pour une saison où Dieu vous demande de vous battre comme David plutôt que de vous battre comme Saül. C'est une saison nouvelle. Donc, vision renouvelée, culture renouvelée. Et dans cette vision renouvelée et dans cette culture renouvelée se trouve la chose nouvelle que Dieu va faire. Donc, soyons à l'écoute. Et une dernière chose par rapport à cette chose nouvelle, à nouveau un encouragement pour toi, Timothée. Dirige à l'aide de cette question et cette réponse. Pourquoi et parce que? Lorsqu'il y a des choses nouvelles qui vont, est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui vont être mises en place? Peut-être c'est déjà le cas. Des façons nouvelles de faire des choses. Comme si le mobilier de l'Église est en train d'être réarrangé, c'est pas toujours facile pour tout le monde de le recevoir et de l'accueillir et de l'accepter. Mais il y a toujours une bonne raison pourquoi un responsable fait les choses comme il les fait. Et donc c'est important de les articuler. On va pas juste faire les choses parce que j'en ai envie. On va les faire parce qu'il y a une bonne raison derrière. On va pas juste faire les choses parce qu'on les a toujours faites. Il y a une bonne raison de les faire. On dirige avec la réponse parce que à la question pourquoi. C'est très, très important que dans cette nouvelle saison, tout le monde comprenne pourquoi on fait les choses comme on les fait. Pourquoi les choses qu'on a déjà faites, on va continuer à les faire pour certaines. Et pourquoi d'autres choses qu'on a arrêté de faire pour en faire une nouvelle, voilà pourquoi on fait les choses de façon nouvelle. Et plus on comprend pourquoi David se conduit comme il se conduit alors que c'était différent avec Saül, plus on entrera tous dedans et on pourra devenir ensemble, vous pourrez devenir ensemble une armée puissante. Les hommes forts qui vont voir Dieu faire des exploits à travers vous. Et donc maintenant, pratiquement, concrètement, comment est-ce qu'on entre dans la nouvelle saison? Quelles sont les choses à faire pour entrer dans la nouvelle saison? C'est bientôt Noël. Vous avez déjà eu parfois des moments à Noël où vous saviez quel était le cadeau que vous alliez avoir. Il y a une attente, il y a une expectative. C'est sympa, j'ai hâte d'être le 25, mais je sais ce que je vais recevoir. Parce que papa et maman me l'ont déjà dit, ou parce que mon mari ou mon épouse me l'a dit. Et c'est sympa. Mais c'est autre chose quand on ne connaît pas encore le cadeau qu'on va recevoir. Il y a une attente plus grande encore. Peut-être un petit peu de trépidation. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais recevoir. Souvenez-vous quand vous étiez petit, quand vous étiez petite. Qu'est-ce que je vais avoir pour Noël? J'espère vraiment que ce sera ça. Mais peut-être que ça ne le sera pas. Peut-être que ce sera autre chose. Peut-être que ce sera encore mieux que ce que j'espère. Peut-être que je n'ai même pas pensé à la chose à laquelle mes parents ont pensé pour m'offrir. Et ce qui se passe, c'est que parfois, on peut se dire, je sais ce que Dieu va faire demain, en présumant que c'était la même chose que ce qui a été fait hier. Vous savez que c'était un petit peu le cas pour les pharisiens quand Jésus est venu. Quand Jésus est venu, ils attendaient tous le Messie. Mais ils sont passés à côté de Jésus, parce qu'ils avaient une attente trop figée et trop fermée de ce à quoi le Messie devait ressembler. Et c'était différent de ce à quoi ils s'y attendaient. Venons dans cette nouvelle saison avec l'esprit grand ouvert à ce que Dieu va faire. Soyons dans l'attente de ce que Dieu va faire et ne venons pas avec nos présupposés, nos préconceptions de comment ça doit être fait. Ce sera peut-être bien différent. Mais si c'est différent et que ça vient de Dieu, c'est que c'est encore meilleur que ce à quoi on s'attendait. Les pharisiens ne s'attendaient pas à ce que Jésus soit ce qu'il soit. Mais si, comme Nicodème, ils avaient eu les yeux pour voir ce que Dieu était vraiment en train de faire, ah, ils se seraient réjouis de tout leur cœur. Ils se seraient réjouis de tout leur cœur parce qu'ils se seraient rendus compte, ce n'est pas juste pour nous libérer des Romains que Dieu est venu. C'est pour nous libérer d'un poids tellement plus grand, d'un fardeau tellement plus grand. Jésus était venu pour leur apporter la liberté totale. Ce que Dieu fait est bon. Et quand Dieu agit, c'est une bonne chose, même si ça ne ressemble pas à ce à quoi on s'attendait. Attendons-nous à Dieu. Donc, quelles sont les postures qu'il demande de votre part? J'ai six mots. Pour vous aider à vous en souvenir, les trois premiers vont juste être dans un ordre alphabétique, F, G, H, d'accord? Et les trois autres vont tous commencer par la même lettre, P, P, P. Je n'ai pas réussi à faire F, G, H, J, K, L, M. Je n'ai pas réussi à faire ça. Donc, on peut au moins faire F, G, H. Quand je ne commence pas par A, je n'arrive pas à faire l'alphabet en entier. F, G, H dans un ordre alphabétique et après P, P, P. D'accord? Le premier, F, foi. Aborder cette nouvelle saison avec foi. Dieu va faire quelque chose. Hein, lisez ce qui est dit dans Ésaïe 43. Je mettrai un chemin dans le désert. Voilà ce que Dieu va faire. En ce lieu, avec vous, parmi vous, Dieu va mettre un chemin dans le désert. Waouh! Ayez foi en ça. Je mettrai des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches. Dieu va faire ça. De quoi ça parle? Ça parle de personnes qui aujourd'hui sont mortes à Dieu, ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas Jésus, mais qui vont revenir à la vie. Ils vont revenir à la vie, ils vont découvrir Jésus parmi vous. Voilà ce que Dieu va faire dans ces temps à venir, une saison de conversion, une saison où le baptistère sera utilisé et le sera de façon fréquente. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert et des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu, une église dans laquelle vous allez être nourris par le pain de la parole, par l'exégèse sérieuse et appliquée de la Bible semaine après semaine. Ce sera une nutrition, une nourriture, ce dont cette église a besoin. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ce sera une saison où Dieu sera exalté par l'expression de la louange qui va sortir une fois de plus de ce lieu. Donc foi, ayez foi en avance pour ce que Dieu va faire. Placez votre confiance dans le Dieu qui agit, donc foi. Deuxième chose, générosité. Ça englobe tellement de choses. Oui, ça englobe l'argent. Ça, c'est une chose, mais j'ai encore plus en tête d'autres choses au niveau de la générosité. J'ai en tête la générosité au niveau de votre temps. Cette nouvelle saison va demander de votre part une générosité en termes de temps, une générosité en termes d'engagement, une générosité même pour certains au niveau de votre place ou de votre ministère dans l'Église, de pouvoir dire ce que moi j'ai toujours fait, qui est peut-être même un petit peu ma chasse gardée, eh bien, je vais le partager avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que demain, alors que le désert reverdit, alors que la solitude devient de moins en moins grande, que cette salle se remplit de plus en plus en plus, eh bien, il y aura de plus en plus en plus de monde qui seront doués musicalement, par exemple. Peut-être que d'un groupe de louanges, vous passerez à deux groupes de louanges, et ceux qui ont l'habitude de jouer toutes les semaines, eh bien, ce sera une fois sur deux. Mais c'est une bonne et une profondément bonne chose. Pourquoi? Parce que ça veut dire que soit vous avez un petit peu plus de temps pour vous reposer et pour recevoir aussi et louer Dieu, mais aussi ça veut dire que vous pourrez commencer à servir dans d'autres choses, dans des nouvelles choses, et donc être généreux en termes de dire il y a des initiatives qui doivent être prises où je vais me dire il y a tel et tel et tel besoin dans l'église et je vais commencer à le remplir. Peut-être que d'une équipe d'enfants, vous passerez à deux équipes d'enfants, une pour les maternelles, une pour les primaires, et puis pour les collégiens, et puis pour les lycéens. Ce sera un besoin de plus en plus en plus grand et on aura besoin que cette église soit une église généreuse, généreuse au niveau des ministères ou des places dans l'église qui aujourd'hui sont les vôtres, qui devront être partagées avec d'autres personnes, plus les choses vont et plus les choses avancent. Mais aussi une générosité au niveau de votre investissement. Certaines personnes aujourd'hui ne servent pas, ne sont pas impliquées dans la vie de l'église, mais entrer dans la chose nouvelle que Dieu fait et que Dieu va faire. Générosité aussi en termes de votre posture. Généreux pour vous dire « je viens au culte et je viens à l'heure ». C'est un problème pour tout à Paris. Mais en vrai, on arrive à arriver à l'heure pour d'autres choses que pour le culte. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à arriver à l'heure pour le culte? Ce n'est pas si difficile que ça. Si on se dit « ok, j'arrive 15 minutes en retard, eh ben, du coup, je me demande à quelle heure est-ce que je suis parti de chez moi, eh ben, je pars 15 minutes avant ». Et on arrive à l'heure, waouh! Et on arrive à l'heure et on vient et on prend les places de devant parce qu'on connecte avec ce que Dieu fait avec foi dans cette nouvelle saison. Donc, foi et générosité, une générosité de disposition. On est participant et on est partie prenante de la vision. Foi, générosité. Troisième chose, hospitalité. Hospitalité, parce que si les fleuves coulent et si les déserts reverdissent et si la solitude s'en va et que ce lieu accueille de plus en plus en plus de nouvelles personnes, on peut voir ces nouvelles personnes comme des menaces. Oh ouais, mais ils ne sont pas comme les autres qu'on a l'habitude d'avoir, on les connaît moins, on a moins de repères. Ou bien on peut se dire hospitalité, cette maison est là, les bras grands ouverts, pour accueillir et pour inviter chaque nouvelle personne qui vient. Et pas seulement dans ce lieu, mais dans nos maisons individuelles. Que nos tables, même si vous vous dites, mais c'est trop humble chez moi, ou je n'ai pas assez à donner. Inviter quelqu'un chez soi pour juste prendre un café. Parle tellement, tellement fort à une nouvelle personne qui arrive dans une église. Être de ceux qui vont dire, je ne vais pas seulement aller parler aux personnes que je connais, mais je vais aller repérer qui est la personne nouvelle. Et c'est à elle que je vais parler en priorité. Hospitalité. Peut-être qu'il y a des équipes de plus en plus de gens qui vont dire, mais moi, je vais être la première, je vais arriver à 9h15 pour que chaque personne nouvelle soit accueillie avec un grand sourire par une personne qui est là. Donc, foi, générosité, hospitalité. Entrez là-dedans et soyez, incarnez vous-même toutes ces choses. Donc, F, G, H, foi, générosité, hospitalité. Et puis trois P. La première, patience. Patience. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle saison prend du temps pour s'installer. À partir du 21 juin, ce n'est pas dit qu'il fasse beau tous les jours. Par contre, arrivé au 21 juillet, on sait que c'est plus ou moins normal qu'il fasse 30 degrés tous les jours. Et parfois, en juin, on a des jours où il fait 15, où il y a de la grisaille et où il pleut. C'est normal, une saison prend du temps pour s'installer. Une patience, la nouvelle saison prend du temps pour s'installer. Et c'est normal. Mais ça demande que chacun dans l'Église se mette derrière ce que Dieu fait, ce que Dieu va faire. Deuxième P, passion. Passion. Qu'est-ce que c'est que la passion? La passion, c'est un mélange extraordinaire de deux choses. La passion, c'est d'abord de l'enthousiasme et de la joie. Et de la vie. C'est comme une bouteille de Badoit, ça pétille, la passion. ça pétille. Donc il y a un enthousiasme qui est là. Mais on connaît des personnes très enthousiastes un jour, mais qui demain ne le sont plus. Parce que les choses ne sont pas faites comme elles le veulent, ou parce que ceci, ou parce que cela, parce qu'il y a X et Y raisons qui font que, hein, un peu comme un feu de paille, ça brûle très très fort, ça brûle très très haut, et puis au bout de 10 jours, la passion n'est plus là. Ah, j'ai trop envie de faire telle et telle initiative, est-ce que je peux? Oui, tu peux. 2 semaines plus tard, oh, j'ai trop envie de faire telle et telle initiative, mais est-ce que tu ne m'as pas parlé de l'initiative A? Qu'est-ce qui est devenu de celle-là? Non, 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 en fait, finalement, c'est l'initiative B. Ça, ce n'est pas de la passion, c'est juste de l'enthousiasme. C'est de la surexcitation. La passion, c'est quand l'enthousiasme est associé à de la constance. Alors la constance tout seul aussi, ce n'est pas de la passion. Si je suis constant et que je fais la tronche, je ne suis pas passionné. Je suis juste quelqu'un de sérieux, mais pas forcément quelqu'un de passionné. La passion, c'est l'alliance de ces deux choses-là ensemble. Je suis enthousiaste pour les choses de Dieu. Je suis rempli d'entrain pour les choses de Dieu et je le suis sur la durée. On peut compter sur mon enthousiasme. On peut compter sur ma joie. On peut compter sur le fait que je suis à fond dans ce que Dieu est en train de faire. C'est ça la passion. Ça va demander une église remplie de passion. Enthousiasme pour les choses de Dieu, et pas seulement un jour par semaine, ou pas seulement une semaine par mois, ou pas seulement un mois par année, mais de façon constante et perpétuelle. Est-ce que la passion est appelée à se réveiller en ce lieu? Je suis convaincu que oui. Donc patience et passion. Et dernière chose, prière. Ces choses ne se passeront pas sans la puissance de la prière. Parce que bien que Dieu l'annonce, je fais une chose nouvelle. Ça passe ensuite par le peuple de Dieu qui reçoit la parole que Dieu donne et qui dit maintenant Seigneur, je fais appel à toi, je crie au nom du Seigneur pour te demander Seigneur, fais ce que tu as promis de faire. Amène sur la terre les promesses qui sont présentes dans le ciel. Accomplis aujourd'hui ce que tu as dit que tu ferais. Ça demande que nous nous saisissions du trône de Dieu. Ça demande que dans vos vies quotidiennes, priez pour l'Église, priez pour la communauté chrétienne du point du jour. Et pas seulement la communauté chrétienne du point du jour telle que vous voulez qu'elle soit. La communauté chrétienne du point du jour telle que Dieu veut qu'il le soit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ce soit lui et sa façon et la manière dont il le construit dans cette nouvelle saison. Si Dieu a un jour nouveau pour cette Église, alors priez, et priez, et priez, individuellement, mais aussi collectivement. Quand vous vous réunissez, quel que soit le contexte, que ce soit pour un culte, ou que ce soit pour une agape, ou que ce soit une réunion X ou Y, passez du temps dans la prière, développez la prière, faites appel au nom du Seigneur. Faites comme cette femme qui s'est saisie du pan de la robe de Jésus, qui dit « si je touche tellement un bout de ton manteau, je sais que tu vas agir ». Ou comme Jacob qui dit « Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses ». Saisissons-nous du pan de la robe de Dieu. Si vous avez une réunion de prière, vous avez une réunion de prière? Oui. Que ce ne soit pas juste les 5 ou 10 même à chaque fois. Tous ensemble en église, ça demande de prier. Ça demande de prier, ça demande de venir ensemble et de dire « Seigneur, c'est en toi que je place ma confiance ». C'est en toi que je place ma confiance. Parce que si les projets de Dieu sont ce qu'ils sont, alors nous sommes bien trop impuissants pour les vivre. Mais si les projets de Dieu sont ce qu'ils sont, lui est puissant pour les faire subvenir. Et donc la prière est nécessaire. Donc foi, générosité, hospitalité, patience, passion et prière. Foi, générosité et hospitalité. Patience, passion et prière. FGHPP. Prions. Seigneur, je te remercie parce que tu as le sens de l'histoire. Tu sais ce que tu fais et tu as des projets et des plans pour ton Église sur la terre. Et tes projets sont oui et amen. Des projets de paix et non de malheur. Et nous voulons dire oui et amen à tout ce qui est sur ton cœur, Seigneur. Trouve-nous prêts. Trouve-nous prêts à entrer dans tout ce que tu as en réserve. Je te demande que tu donnes toujours plus, Seigneur, par ton esprit, de vivre le kainos que tu as pour cette Église. Je te demande, Seigneur, dès maintenant, cette saison qui est déjà en train de venir, je te demande que tu accélères l'arrivée de cette saison. Envoie une vague nouvelle de ton esprit, Seigneur Dieu, comme elle n'a jamais été dit. Une opération différente, mais le même esprit. Viens, Seigneur, remplis ton Église. Manifeste ta gloire, Seigneur. Quelle joie de voir ta gloire se manifester au milieu des nations de la terre. Quelle joie de voir ton royaume venir au milieu des royaumes de ce monde. Je te demande, Seigneur, une nouvelle saison de réveil ici à Paris, pour chacune des églises. Je te demande, Seigneur, que tu donnes au point du jour de rentrer dans ce que tu as pour eux dans cette nouvelle saison. Au nom de Jésus. Amen.
Merci Nathan. Je crois que